Radio Kapi.
Le journal présenté par Belinda Bosuma.
À la une, présentation hier à l'Assemblée nationale de l'économie du projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023. Constat, il y a eu dépassement budgétaire de plus de 150% pour le fonctionnement des institutions. Le ministre des Finances justifie ces dépassements par la tenue des élections au pays, la crise sécuritaire, sanitaire et humanitaire. Insécurité alimentaire alarmante en Ituri, plus d'un million de personnes touchées. Révélation du PAM hier à Bounia en marge de la Journée mondiale de l'alimentation. La conseillère aux affaires humanitaires du gouverneur de l'Ituri estime qu'il faut rétablir la sécurité dans les zones de production pour mettre fin à cette situation. Et puis, l'invité de ce matin, Mame Mandia Nyang, procureur adjoint de la Cour pénale internationale. Il revient sur la décision portant réactivation des enquêtes par la CPI sur les crimes présumés relevant du statut des Roms, crimes commis au Nord Kivu depuis janvier 2022. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Assemblée nationale avec la présentation hier de l'économie du projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023. Selon le ministre des Finances, les dépenses courantes, principalement le fonctionnement des institutions et les rémunérations, ont consommé plus de 70% du budget avec des dépassements budgétaires de plus de 150%. Doudou Fouambalikoundé, qui fait état d'une exécution du budget à environ 92% en recettes et plus de 96% en dépenses, justifie les dépassements budgétaires par le contexte particulier marqué par la tenue des élections générales, la crise sécuritaire, sanitaire et humanitaire dans laquelle a évolué la RDC en 2023. Le ministre Doudou Fouamba des Finances explique dans ses propos recueillis par Michel Kifindangoy.
Sur une prévision de l'ordre de 32 000 milliards de francs, les recettes du budget du pouvoir central réalisées au terme de l'exercice budgétaire 2023 sont chiffrées à 29 000 milliards de francs, soit un taux de réalisation de 91,22%. Les dépenses du pouvoir central prévues à 32 000 milliards de francs ont été exécutées à hauteur de 31 000 milliards de francs, soit un taux d'exécution de 96,49%. Le compte général du Trésor dégage la situation consolidée des financements des opérations du Trésor, ce qui s'est clôturé au 31 décembre 2023 par un solde débiteur consolidé d'un import de 226 milliards de francs. À cet effet, le déficit du budget général d'un import de 3 000 milliards, 0,30,95 milliards de francs a été entièrement financé par les ressources résultant de la souscription des bons et obligations du Trésor émis d'un import de 2 000 milliards de francs, soit 67,35%.
En réaction aux propos du ministre, les députés nationaux dénoncent les dépassements budgétaires de plus de 15 000 milliards de francs congolais consommés par les institutions du pays. Ils se sont ainsi exprimés au cours du débat général qui a suivi la présentation par le ministre des Finances du projet de loi portant reddition des comptes exercice 2023. Selon l'opposition parlementaire, plus de la moitié des dépenses budgétaires ont été effectuées en procédure d'urgence par le ministre des Finances Nicolas Kazadi, ce qui a occasionné des détournements à grande échelle. Tout en félicitant le gouvernement, la majorité parlementaire déplore tout de même la non-exécution du budget des investissements dans le programme de développement des 145 territoires. Explication, Michel Kifindangoy.
Prenant la parole en premier, le président du groupe parlementaire de l'opposition estime que cette reddition des comptes met à nu les détournements orchestrés par le ministre des Finances sortant. Il recommande donc une enquête parlementaire sur les paiements en mode d'urgence exécutés par Nicolas Kazadi et le vote d'une motion de défiance contre le ministre du Budget, Aimé Bogi, pour incompétence. Christian Mwando.
450 milliards de dettes intérieures non certifiées payées en procédure d'urgence, mais on ne paye que 6,96% pour le PDL 145 territoires, programme phare du gouvernement.
Tout en félicitant les membres du gouvernement, la députée Kabouité de l'Union Sacrée déplore la sous-exécution du budget d'investissement.
L'ensemble de nos ressources vont vers la consommation courante des institutions de la République. Comment lutter contre la pauvreté alors que on n'investit pas dans un quelconque secteur?
Après environ 10 heures de débat, ce projet de loi, mais aussi le collectif budgétaire 2024, ont été envoyés en commission ECOFIN pour examen approfondi.
Entre-temps, la ministre d'État à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté plaide auprès du président de l'Assemblée nationale pour l'amélioration des conditions sociales des enseignants. Raïssa Malou l'a dit hier à l'issue de l'audience que lui a accordée Vital Kamerhe. Elle dit souhaiter que lorsque le budget sera discuté, qu'il y ait peu de coupes dans le budget de son ministère pour permettre au gouvernement d'améliorer le social des enseignants. On écoute la ministre d'État à l'Éducation nationale, Raïssa Malou, dans cet extrait proposé par Alain Rungmushinj.
Je voudrais vraiment remercier chaleureusement et vraiment exprimer ma profonde gratitude à l'honorable président de l'Assemblée nationale d'avoir pris le temps de me recevoir aujourd'hui pour en fait militer sur la question des enseignants. Vous savez que c'est une préoccupation importante pour le gouvernement. Nous tenons absolument à améliorer les conditions sociales de nos enseignants. Le chef de l'État nous a instruit de faire tout ce qui était en notre pouvoir pour améliorer leurs conditions et leur statut. Et donc c'était pour moi essentiel de venir parler à l'honorable président de l'Assemblée de cette problématique des enseignants. Comme le budget va être débattu au niveau de l'Assemblée, c'était pour plaider pour que le budget pour le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, dans sa partie de rémunération, puisse justement avoir quelques efforts, qu'il y ait peu de coupes, que l'on nous donne plus de ressources, de manière à ce que nous améliorons les conditions des enseignants. Mais également, j'ai eu l'occasion de lui présenter le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, qui se base sur le plan d'action du gouvernement. Au niveau de ce plan quinquennal, au-delà de l'aspect vraiment du renforcement pour ce qui est des conditions des enseignants, mais aussi l'aspect de formation, il y a un aspect de renforcement de l'administration.
Pendant ce temps, dans la province de la Tchopo, la grève des médecins est effective dans plusieurs hôpitaux de la ville. Les médecins ont répondu favorablement au mot d'ordre de leur syndicat national, lequel décrète une grève assortie d'un service minimum. Après une semaine de grève, une évaluation est prévue le mardi 22 octobre prochain pour décider de la suite à réserver à ce mouvement syndical. Au Kwilu, le diocèse de Kikwit dénonce selon lui la barbarie qui a régné lundi au sein de l'hôpital général de référence de Mosango, géré par le bureau diocésain des œuvres médicales Bedom Kikwit. Dans un communiqué, le diocèse explique que tout est parti de l'affectation collective faite en septembre dernier par Mgr Timothée Bodika dans le souci d'échange des compétences dans les différentes structures de santé. Une décision qui n'était pas du goût du médecin directeur de cet hôpital qui a été affecté à Paikongila mais n'a pas été d'accord de quitter son ancien poste. C'est ce qui est à la base de la situation tendue que condamne ce diocèse. Récit des faits avec Irène Boma.
C'est pendant que la remise et reprise devrait commencer entre les médecins directeurs sortants de l'hôpital général de référence de Mosango et son successeur qu'une bande d'inciviques est descendue au couvent des abbés et à l'hôpital, tabassant et cassant tout à leur passage jusqu'à saccager les habitations des prêtres, peut-on lire dans ses communiqués. Les diocèses de Kikwit dénoncent avec la dernière énergie ces comportements qu'ils qualifient de barbares et régionalistes en plein 21e siècle. Ils félicitent les forces de l'ordre qui ont fait preuve du professionnalisme devant la provocation et l'attaque barbare de ces jeunes. Dans ces mêmes documents, les diocèses exhortent les autorités provinciales et l'ordre des médecins à prendre leurs responsabilités face à ces médecins insoumis et catalyseurs de la violence observée lundi à Mosango qui aurait pu être fatale, n'eût été le professionnalisme des forces de l'ordre. Nos efforts pour avoir la réaction du médecin directeur sortant de l'hôpital de Mosango sont restez vain. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Direction la province de l'Ituri, je vous le disais en titre, plus d'un million de personnes sont plongées dans une insécurité alimentaire alarmante. Ce constat préoccupant a été révélé hier à Bounia par le Programme alimentaire mondial PAM lors d'une activité marquant la Journée mondiale de l'alimentation célébrée le 16 octobre de chaque année. La conseillère en charge des affaires humanitaires du gouverneur de l'Ituri insiste sur l'importance de rétablir la sécurité dans les zones de production pour mettre fin à cette crise grandissante. Martial Kiza Biamungu nous fait le point.
La famine à l'Ituri touche principalement les femmes et les enfants vivant dans le site des personnes déplacées. Le programme alimentaire mondial évoque plusieurs causes de cette situation. Les faibles revenus des ménages, les manques d'intrants agricoles de qualité, les maladies des végétaux et les difficultés d'accès à certaines zones agricoles dues à l'activisme des groupes armés. Un agent des PAM.
Les sécurités dans la zone, avec les conflits, avec toutes ces conséquences, sont été désignées comme les premiers facteurs déterminants qui est à l'origine de cette situation d'insécurité alimentaire.
Selon Jeanne Alacha, conseillère du gouverneur des provinces en charge des affaires humanitaires, les conflits armés et les problèmes de cohabitation entre les communautés exacerbent l'insécurité alimentaire parmi les populations paysannes.
Notre politique actuelle, c'est le nexus. Travailler pour la paix, travailler pour les urgences et travailler pour le développement, pour stabiliser l'Ituri, pour qu'on devienne ce qu'on était avant, les greniers de la RDC.
Une vingtaine d'organisations intervenant dans les domaines de la sécurité alimentaire à l'Ituri ont participé à cette journée de sensibilisation sur la problématique de la famine dans le but de renforcer les actions en faveur des personnes touchées par l'insécurité alimentaire. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Par ailleurs, à Goma, le programme alimentaire mondial PAM affirme dans une déclaration que la journée mondiale de l'alimentation revêt une importance particulière pour cette région riche en ressources, mais confrontée à des défis majeurs en matière de la faim et de la malnutrition qui affectent en particulier des milliers de personnes déplacées. Pour le chargé de communication du PAM en RDC, le moment doit être saisi pour sensibiliser sur les enjeux de la sécurité alimentaire. Dans l'actualité aussi, le vice-ministre de la Justice et des Contentieux Internationaux, Samuel Mbemba, réaffirme l'engagement du gouvernement à livrer toute personne qui sera identifiée comme présumée auteur de crimes par la Cour pénale internationale CPI. Il a dit lors du briefing de presse co-animé hier à Kinshasa avec son collègue de la communication et médias, Patrick Muyaya. Samuel Mbemba a également annoncé pour bientôt l'installation du Tribunal pénal international pour la paix pour la RDC. On écoute le vice-ministre de la Justice dans ses propos recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Vous pouvez noter que justement ce que le procureur a annoncé vient, je l'ai dit tout à l'heure, du mémorandum d'entente. C'est que la RDC a préparé ces termes-là et les a soumis au procureur. Donc, s'il se trouve que quelqu'un est du côté du pouvoir, mais identifié comme étant l'un des auteurs présumés des crimes poursuivis par la CPI, il sera livré. Donc ça ne sera pas une surprise pour le gouvernement congolais. J'ai dit qu'il y a eu un mémorandum d'entente. C'est pourquoi ceux qui pensent que rien n'est fait, ils doivent parfois avoir la patience d'observer. Il y a des choses que le magistrat suprême avait conçues, calculées et qui commencent à se réaliser de la plus belle manière.
Le vice-ministre de la Justice fait cette mise au point au lendemain de la décision de la CPI de réactiver ses enquêtes sur les présumés crimes relevant du statut de Rome commis depuis janvier 2022 au Nord Kivu. Et dans le cadre de notre série de reportages intitulée « Le VIH-Sida à Beni, Butembo et Lubero au Nord Kivu, une crise silencieuse au cœur de l'insécurité », ce troisième volet met en lumière le fardeau accablant qui pèse sur les personnes séropositives dans cette région, confrontées à une stigmatisation sévère et à un rejet social. Elles luttent non seulement contre la maladie, mais aussi contre un environnement hostile. Martial Papi Mukeba nous plonge au cœur de cette réalité poignante. Voici son reportage.
Vivre avec le VIH à Beni, Butembo et Lubero signifie souvent vivre dans la peur et l'isolement. C'est le cas de Béatrice Kavira, enlevée et violée par des hommes armés qui a contracté le VIH-Sida. Malgré son courage de parler ouvertement de son statut sérologique, elle subit toujours la stigmatisation et a même perdu son emploi à cause de sa maladie.
On nous montre du doigt dans la société. Moi, par exemple, j'ai travaillé, mais j'ai été licenciée parce qu'ils disaient que j'allais contaminer les gens. Ensuite, j'ai ouvert un restaurant, mais on disait aux clients de ne pas venir à cause de ma maladie.
Kavuo Esther, également séropositive, encadre à Beni 130 enfants orphelins du VIH-Sida. Elle dénonce la discrimination à la contre de ses enfants, même au sein de leur propre famille.
Ces enfants n'ont pas la paix. Ils ne mangent pas avec les autres et certains sont même chassés. On leur dit, vous êtes malade, vous allez nous contaminer et mourir demain.
À Beni, Butembo et Lubero, les préjugés et la stigmatisation empêchent beaucoup de personnes de se faire dépister, ce qui contribue à la propagation continue du VIH-Sida. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Et demain, pour clôturer cette série de reportages intitulée « Le VIH-Sida à Beni-Boutembo et Lubero, une crise silencieuse au cœur de l'insécurité », nous aborderons la question de l'accès au traitement antirétroviraux. Nous aurons également comme invité une personne de la région vivant avec le VIH-Sida depuis 10 ans qui partagera son expérience personnelle.
Actualité internationale.
Nous sommes au Mozambique. Le parti au pouvoir, le Front de libération du Mozambique, Frelimo, domine les résultats provisoires des élections générales du 9 octobre, se plaçant en tête dans les 11 provinces du pays. Daniel Chapo, le candidat du Front de libération du Mozambique, est largement pressenti pour remporter l'élection présidentielle. Cependant, l'opposition conteste vigoureusement les résultats, dénonçant des irrégularités électorales et criant à l'injustice.
L'invité.
Il s'agit du procureur adjoint de la Cour pénale internationale CPI, Mame Mandia Nyang, revient sur la décision portant réactivation des enquêtes par le procureur général de la CPI sur les crimes présumés relevant du statut de Rome commis en RDC, spécialement dans le Nord Kivu depuis janvier 2022. Il s'entretient avec Ronéline Tibonera.
Monsieur le procureur adjoint de la Cour pénale internationale, vous avez annoncé cette réactivation des enquêtes sur la situation dans l'Est de la RDC. Qu'est-ce que cela veut dire exactement?
Cela veut dire que nous allons reprendre nos enquêtes. Vous savez que, comme on l'a dit dans notre communiqué, c'est une situation qui a été ouverte depuis longtemps, depuis que nous en avons été saisis en 2004. Mais cette situation n'a jamais été fermée, mais on a eu une phase d'enquêtes actives qui ont conduit à certains procès. Bon, après quoi, même si la situation n'était pas formellement fermée, nous n'étions plus aussi actifs dans la façon dont on est organisé ici. Vous savez que quand il y a une situation, il y a des cas dont on s'occupe et il y a aussi une équipe qui s'en occupe. Mais à la faveur des différents cas que nous avons eu à amener jusqu'au procès, il n'y avait plus à proprement parler d'équipe désignée et assigné au cas de la RDC, même si la situation était en fait ouverte. Bon, ce que on veut dire maintenant par la réactivation, cela veut dire qu'il y a maintenant toute une équipe qui a encore été désignée et que nous allons en fait reprendre une phase active de ces enquêtes.
Vous parlez des crimes présumés relevant du statut de Rome commis dans la province du Nord Kivu depuis janvier 2022. Qu'est-ce que cela veut dire?
C'est une déclaration de référence. Mais les crimes commis, vous savez, on les connaît. C'est-à-dire, dans le statut de Rome, nous avons 4 formes de criminalité qui sont prévues. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide et ensuite le crime d'agression dont l'applicabilité est assujettie à beaucoup de conditions. Bon, dans ce qui concerne la RDC de façon générale, bon, en fait, même si c'est l'enquête qui va déterminer la nature exacte des crimes, bon, mais la référence initiale, c'est surtout par rapport aux possibles crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Et pourquoi la demande introduite par la République démocratique du Congo a pris du temps pour être traitée, malgré l'urgence de la situation sur terrain, spécialement ce que la population est en train de vivre au Nord Kivu?
C'est vrai que c'est une situation dont l'urgence s'est toujours révélée, mais il ne faut pas en fait aussi se tromper sur notre mandat. Nous ne sommes pas du Conseil de sécurité avec cette mission de venir arrêter les guerres. Bon, en fait, il s'agit de crimes commis sur lesquels nous enquêtons. Bon, il est vrai que depuis un certain temps et dans certaines situations, il nous arrive maintenant de plus en plus d'enquêter alors même que le conflit est en cours et c'est un peu ce qui est le cas aujourd'hui au niveau en fait, du Nord Kivu. Mais bon, en fait, dire que nous avons tardé à réagir, je crois que c'est aussi ne pas savoir tout le processus qui a été impliqué et qui a été mis en branle depuis longtemps. Nous avons quand même repris langue avec les autorités il y a un certain temps et il y a eu un certain nombre de gestes très forts qui ont été posés. Le procureur Kahn s'est rendu en RDC déjà il y a un peu plus d'un an. À la faveur de cette visite, un mémorandum d'entente a été signé parce que, comme vous voyez, la criminalité quand même en RDC est une criminalité très large. Et puis autant la CPI veut agir, vous savez que la CPI n'a pas vocation à appréhender la criminalité dans toutes ses formes dans un pays aussi immense et dans une criminalité aussi étendue.
Terminons notre entretien en plusieurs rapports publiés par les experts des Nations Unies. démontre bien sûr le rôle du Rwanda dans la déstabilisation du Nord Kivu, mais ce pays n'est pas signataire du statut de Rome. Est-ce que cela ne pourrait pas-t-il bloquer la CPI dans cette démarche qu'elle a annoncée?
Bon, en fait, nous avons déjà indiqué clairement que la RDC est partie au statut de Rome et la RDC nous a saisi d'une certaine criminalité. Donc, nous allons encaisser. Ceci suffit pour nous donner compétence. Donc, comme vous le voyez, et ça, c'est pas propre à la RDC. Vous voyez que nous avons été très actifs, par exemple, en Ukraine. Ni l'Ukraine, ni la Russie ne sont membres même de la CPI. Mais il y a des règles procédurales qui permettent notre saisine en acceptant notre juridiction, même quand on n'est pas État membre. Bon, dans le cas du Nord Kivu, en fait, pour une criminalité qui s'est produite dans le cadre d'un pays qui est membre, cela suffit amplement pour justifier notre compétence.
Monsieur le procureur adjoint de la Cour pénale internationale, nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité répondait aux questions de René Lintibonera. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.